C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig.
Il était une fois un vieux sculpteur sur bois qui s'appelait Geppetto. Un beau jour, il décida de fabriquer un pantin. Comment vais-je le nommer ? Pinocchio ?
Auteur Carlo Collodi, 1826-1890. Œuvre Les Aventures de Pinocchio, Les Aventure di Pinocchio, 1883. Première traduction française, 1902. Personnage Pinocchio. Adaptations nombreuses, notamment au cinéma, par les studios Disney, Luigi Comencini, Roberto Benigni ou Steven Spielberg, qui transpose le conte dans A.I. Les contes pour enfants sont parfois l'organisation de la terreur, comme ceux des frères Grimm. D'autres sont plus tendres, comme ceux d'Andersen. Les seconds sont les plus imaginatifs. Les frères Grimm n'ont pour toute imagination que celle, très limitée, de la brutalité. Quels qu'ils soient, la plupart des contes pour enfants servent à la diffusion du conformisme. Cela vient de ce que chaque organisation sociale pense qu'elle ne peut survivre qu'en imposant à ses enfants un échafaudage moral fondé sur ce qu'elle appelle la sagesse ou le bon sens. Ah, chantage ! Ah, horreur ! Les aventures de Pinocchio sont un de ces écrits où un Italien de la fin du XIXe siècle a contribué à dresser les enfants de l'Occident entier pour ce siècle, le suivant et le suivant encore, puisqu'on continue à le lire et à l'adapter. On pourrait dire que c'est un conte fondé sur la cruauté pré-bourgeoise selon laquelle les enfants sont des animaux à dresser, des quasi non-humains, puisque d'ailleurs Pinocchio est en bois. Je ne dis pas que le dressage nommé éducation est inutile, il est d'ailleurs si peu que, l'enfance passée, on ne s'en occupe plus alors que bien des adultes mériteraient d'être encore éduqués. Enfin, je suppose, ayant moi-même oublié ce que la lecture de ces contes m'avait fait, que les enfants s'en débrouillent en retenant ce qui leur convient. Quand nous lisons quelque chose dont nous savons qu'il est destiné à nous modifier, nous lisons l'histoire mais aussi l'intention qui la sous-tend. Je suis sûr qu'il y a des criminels qui ont lu Pinocchio en en tirant des ruses et des cynismes. Ne croyez pas, oublieux adultes, que rien ne dresse jamais tout à fait les êtres humains. Pensez d'ailleurs que ce sont des gens en âge de lire Pinocchio, et l'ont peut-être lu, qui ont déclaré la guerre de 14. La littérature, tant mieux, n'a aucune influence morale. Je l'adore ce Pinocchio, il n'est qu'élan et allégresse, et la triste raison cherche à l'emprisonner dans la conformité. Sa vie est une suite à l'Odyssée d'Homère. Il n'arrête pas de tenter de revenir chez lui. Et ce petit Ulysse en bois, de même que l'autre affronté la colère de Poséidon et les ruses de Circé, est trompé par le chat et le renard qui tentent de lui voler ses pièces en or, puis abusé par la fée qui utilise toutes les séductions et tous les chantages pour le plier à sa volonté. Qui est Pinocchio ? Pour en parler, je reçois Valentina Frullio, qui enseigne la langue et la littérature italienne à la Dante Alighieri de Paris. Valentina Frullio, avant de commencer de parler de Pinocchio, est-ce que vous auriez la gentillesse de me lire en italien les premières pages du conte ?
Bien sûr. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze.
C'est-à-dire un début où il était une fois un morceau de bois, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, un morceau de bois qui surtout n'est pas un morceau de bois de luxe.
C'est ça, on va en parler. Avant de passer à Pinocchio, je voudrais, parce qu'il est très peu connu en France, que vous nous parliez un peu de son Geppetto littéraire, Carlo Collodi. Qui était-ce ?
Carlo Collodi était un écrivain donc fin 1800, mais au moment où il écrit Pinocchio, c'est un homme qui a passé la cinquantaine, qui a derrière lui une vie d'écriture, de journalisme et aussi une activité politique intéressante. Il avait participé aux guerres d'indépendance donc italiennes pour l'unité d'Italie. Et c'est un homme, je dirais, un homme libre qui n'acceptait pas le. Donc il était de Florence. Il était né à Florence, d'une famille pauvre. Son père était cuisinier, sa mère était femme de chambre, mais les deux parents travaillaient pour une famille très riche à Florence. Ils avaient 10 enfants.
Collodi est un nom florentin ? Pas spécialement.
En fait, Collodi, lui, son nom est Lorenzini, Carlo Lorenzini. Collodi, c'est le nom d'un petit village qui est entre Luc et Florence, et c'était le village où sa mère était née. Il avait eu tout au long de sa vie une relation avec sa mère très étroite, et il a choisi de prendre ce nom de plume. Mais oui, je disais pourquoi un homme libre, parce que c'était un homme qui ne voulait pas les Habsbourg en Florence, qui était contre le Grand-Duché, et il voulait donc, il était pour l'unité de l'Italie. Il était absolument contre l'éducation des enfants d'une façon normatique et bourgeoise. Et sa vie, surtout les dernières années, c'était une vie de boisson, de jeux, de cartes. D'ailleurs, la raison pour laquelle il a écrit Pinocchio, c'était qu'il avait pas mal de dettes.
Ah bon?
Il jouait beaucoup. Et donc, il envoie cet enfantillage, comme il dit, ce croquis, le début de Pinocchio à son éditeur, qui était un ami, avec lequel il avait travaillé pour différents journaux, et lui demande d'en faire quelque chose. Il dit, mais l'important, c'est que je sois payé, parce que je n'ai pas d'argent. Donc voilà, c'est un personnage parfois difficile à cerner, mais qui avait beaucoup travaillé avec le monde des fables, de l'enfance. L'éditeur Page lui avait déjà demandé de publier des livres pour les enfants. D'ailleurs,
ce qu'il avait fait, il a publié.
Ce qu'il avait fait, et d'ailleurs, ces livres avaient été les manuels scolaires en Italie, appréciés par les maîtres et les enfants, parce que les personnages Giannettino rendaient un peu plus vivant ce qui était les manuels scolaires de l'époque. Et puis, il avait surtout traduit du français les contes de Perrault, les fables de Madame de Noix. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui, finalement, dans cette phase de la vie, peut-être parce qu'il en avait besoin, mais il s'était énormément intéressé à la littérature enfantine.
Mais il était aussi journaliste, n'est-ce pas ?
Il était aussi journaliste, alors... Un écrivain italien disait peut-être on peut voir un journaliste à la façon des Illusions perdues de Balzac. Un journaliste de différentes revues, ils écrivaient de littérature. Ils publiaient parfois des articles très ironiques et bien pointus sur la politique italienne de l'époque. Déçu un peu du passage, parce qu'il faut quand même se souvenir que Florence a été la capitale de l'Italie une fois eu l'unification, et du passage après de Florence à Rome, et aussi de un peu la dégénération de la vie politique italienne de l'époque. Et donc, il était très actif, il avait fondé différentes revues littéraires. Le monde florentin de l'époque littéraire était très, très actif. Il y avait beaucoup d'écrivains.
Lui était plutôt garibaldien ?
Surtout mazzinien, et donc, oui, garibaldien aussi. Mais il avait vraiment participé activement aux deux guerres, et il avait perdu beaucoup d'amis florentins et napolitains qui avaient connu.
Il s'est battu ?
Ah oui, il avait participé aux guerres d'indépendance. Non, si, la première, la deuxième, si.
Il était célèbre au moment où il a écrit le livre ou pas particulièrement ?
Il était célèbre parce que justement son manuel Giannettino avait eu un gros succès, et puis de toute façon les publications qu'il avait fait commençaient à lui donner une certaine renommée. C'était pas l'aisance économique, mais une renommée connue dans le milieu littéraire et amie de différents écrivains, personnalités de l'époque.
Et donc il publie en épisode les aventures de Pinocchio dans un journal pour enfants.
Il y avait cette partie, donc le journal des bambines, le journal pour enfants, c'était publié avec celui des adultes, donc c'était une publication du dimanche, mais là aussi c'est intéressant, au début c'est l'histoire d'un pantin. Donc, il ne s'appelle pas encore Les Aventures de Pinocchio, donc c'est 1881. Et donc, il donne ce début, ce premier épisode. Mais, comme je disais, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime jouer, qui aime sortir, et donc, il n'est pas constant. On retrouve une certaine
des
façon
aventures.
D'être... Oui, des aventures, un peu comme son personnage de Pinocchio, une feignantise. Et d'ailleurs, l'éditeur le sollicite à plusieurs reprises pour qu'il continue.
Ça veut dire qu'il y avait des interruptions de publication?
Ah oui, des interruptions, parce qu'il n'écrivait pas tout le temps, il n'était pas intéressé. Et il n'était pas payé énormément, et donc à plusieurs reprises. D'ailleurs, la première fois qu'il est publié, en théorie, il devait s'arrêter à ce qui est maintenant la moitié du livre, donc au chapitre 15, avec la mort de Pinocchio. Et là, l'éditeur avait reçu tellement de lettres, de demandes de continuer, c'était pas possible. Et donc, il invente une petite histoire en disant qu'il a parlé avec l'auteur. Pinocchio lui dit qu'il reviendra bientôt, mais en fait, Collodi ne voulait pas forcément continuer. diminuer. Et on retrouve, ce qui est positif d'ailleurs dans la lecture, cette écriture au fur et à mesure, donc cette liberté d'écriture.
Alors, pour en venir à ce Pinocchio, vous, dans l'extrait que vous nous avez lu, on apprend tout de suite une modestie de ses origines. C'est donc un pantin en bois et qui n'est pas un bois de luxe.
Oui, c'est important, l'idée de la pauvreté, évidemment pour la biographie même de Collodi, mais c'est très important aussi pour l'Italie et la littérature italienne de cette période. Il faut dire qu'il n'y a pas de roman vraiment en Italie au XIXe siècle. Nous avons Manzoni. Nous avons Les fiancés de Manzoni, qui est de milieu de 1800. Et là aussi, le choix de Manzoni, cet auteur de Milan, c'était d'un milieu pauvre. Et après, nous avions eu, par exemple, les petites œuvres morales de Leopardi. Donc là, le choix, c'est un milieu très modeste, un milieu très pauvre, et qu'on retrouve tout le long du livre. D'ailleurs, la faim, l'idée de devoir manger, de comment faire pour manger, c'est une thématique récurrente. Et le même Collodi avait écrit justement dans un article que, oui, bien sûr, les livres, il y avait eu la loi Coppino, c'est-à-dire la loi pour l'éducation scolaire, donc l'école obligatoire pour les enfants. Et Collodi disait, oui, bien sûr, on rend l'école obligatoire et laïque, mais il faut penser aussi à faire manger le milieu paysan. Il n'y a pas de nourriture, il y a ce problème de pauvreté en Italie. Donc il était très attaché à ça.
Et d'ailleurs, on va venir à ses aventures, mais d'ailleurs, dans le conte, l'argent est un grand sujet. L'argent revient souvent et on voit bien aussi que c'est à la fois parce que Pinocchio ou les gens en ont besoin, mais aussi que ça fait partie de l'idéologie dominante. À un moment, à propos de la fée, Pinocchio dit « Oh, pauvre petite fée, si j'avais un million, je pourrais lui apporter. »
Et dès le début, il y a cet échange. L'argent devient un moyen d'échange, un moyen pour, pourquoi pas, grandir, rentrer dans la société qu'il a exclu, mais en même temps, l'argent ne lui donne pas non plus la possibilité de s'intégrer vraiment.
Alors, quelles sont les principales aventures de Pinocchio sur le chemin de l'humanisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit?
Pinocchio est un pantin en bois, donc il rêve de devenir humain. Mais il ne peut pas devenir enfant, d'ailleurs il n'y aura pas une vraie transformation, c'est-à-dire le pantin ne se transforme pas en enfant. Le pantin sera laissé à la fin du livre, au bout de sa chaise. Mais il rêve de faire ça. Mais évidemment, comme dans tout bon récit, comme dans toute odyssée, comme vous disiez, il est nécessaire d'avoir une série d'aventures. Donc, il faut passer par là. Et donc aussi de savoir comprendre, par exemple, le mensonge même. Et nous avons effectivement la raison pour laquelle Pinocchio est connu dans le monde entier, c'est ce nez qui s'allonge, qui grandit, un nez magique, disons-le. Et évidemment, ses rencontres avec il gatto et la volpe, donc le chat et le renard, et qui nous retrouvons tout le long du livre, jusqu'au bout. C'est presque aussi les derniers personnages que nous retrouvons à la fin. Au début, ils se laissent entraîner par le chat et le renard et peu à peu, ils apprennent à les connaître, à être compatissants aussi vers la fin et à ne plus les suivre. Donc, c'est un chemin important aussi.
Alors, vous et moi parlions de l'Odyssée et d'Ulysse, mais il y a aussi dans cette idée du pantin qui veut échapper à son créateur quelque chose de Frankenstein. Ça participe aussi de ça, la créature qui veut s'échapper des mains de son créateur.
Oui, tout à fait. Et c'est intéressant aussi de voir ces multiples parcours du livre de Pinocchio. La relecture est un plaisir. Et comme disait un écrivain italien, Italo Calvino, on peut suivre différents parcours. Il lui a rendu hommage, Calvino, avec un article à 100 ans de la naissance de Pinocchio, 1981. Et il disait, d'un côté, nous avons, pour la première fois peut-être en Italie, le roman picaresque, donc toutes les aventures dont nous parlions, mais d'un autre côté, pourquoi pas ne pas penser à la littérature anglophone avec ce côté gothique, mystérieux, de peur, de transformation. Je pense aussi au conte d'Edgar Allan Poe. Et vraiment, nous trouvons des situations qui sont à la limite de la peur. Comme toute fable, comme les contes, il faut que les enfants aient aussi un peu peur. Cela sert aussi pour apprendre à ne pas avoir peur.
Alors, ce qui est intéressant dans les aventures de Pinocchio, c'est que c'est évidemment quelque chose qui est destiné à éduquer, à instruire et à pousser les enfants à, disons, obéir. Mais c'est pas seulement ça non plus. Il y a une part de satire puisque Geppetto est arrêté par la police parce qu'on pense que ce qu'il fait à Pinocchio sont des mauvais traitements. Donc il y a une part un peu satirique sur la police italienne.
Bien sûr, ce n'était pas vraiment la police, c'était les carabiniers.
Les carabiniers, c'est vrai.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les carabiniers avaient été créés au Piémont et puis ils arrivent, on va dire, en Toscane quand il y a l'annexion donc, de la Toscane. Et une des raisons pour lesquelles, au début, même si le livre commence tout de suite avec un grand succès, mais il avait été critiqué par un certain milieu parce qu'il se moquait des carabiniers. Donc,
ah oui.
C'était quelque chose à ne pas faire et c'était un mauvais exemple pour les enfants. Évidemment, Collodi s'amusait bien. Mais je ne sais pas, je ne pense pas peut-être que vraiment l'idée de Collodi était celle d'instruire et donner un bon choix. Je pense que le plaisir, c'était vraiment la création, l'imagination pure. Et d'ailleurs, la possibilité, comme dit un autre écrivain argentin, Mengel, il dit qu'effectivement, l'idée d'une société idéale, c'est que elle peut apprendre à lire, et elle peut scolariser, elle peut mettre la culture en avant, comme disait le même Collodi, mais en même temps donner des moyens pour avoir la possibilité de mettre en question cette même société. Et donc, c'est ce qu'il fait un peu Pinocchio. Donc, Pinocchio, évidemment, veut rentrer dans la norme, mais en même temps, il met en cause tout ce que cette norme constitue pour la démanteler, mais pour être intégré aussi à ça.
Nous allons maintenant entendre la suite de l'extrait qui a ouvert le début de l'émission et c'est une diction des aventures de Pinocchio par Daniel Gélin et donc en français en 1963.
En route, il entendit de la musique et courut vers la place. Une foule de gens se pressait autour d'une baraque où l'on donnait une représentation de marionnettes. Les marionnettes le reconnurent aussitôt et l'appelèrent. Il les rejoignit et cela fit un grand désordre. Le directeur de la salle s'empara de lui. Pinocchio pleura si fort que l'homme en eut pitié et le libéra en lui donnant 5 écus d'or pour son père, Geppetto. Il retournait chez lui quand, sur la route, il croisa un chat aveugle et un renard boiteux.
Bonjour, Pinocchio.
Mais comment savez-vous mon nom?
Ah, mais je connais bien ton père. Je l'ai vu hier soir qui t'attendait sur le seuil de sa porte. Il grelottait de froid.
Oh, pauvre papa, il n'aura plus froid car je vais lui acheter une veste avec cet argent. Le chat et le renard se regardaient.
Valentina Frulio, dans ce personnage en personne, où j'étudie avec vous le personnage de Pinocchio, du conte de Carlo Collodi, je voudrais vous demander si Collodi avait des modèles et s'il a parlé de modèles pour l'écriture de son conte.
Il s'était nourri de la lecture des fables et des contes, surtout parce que, je disais, il avait traduit Perrault en italien, et lui, il pouvait lire facilement le français. Et il ne faut pas oublier que les contes et les fables sont aussi à la racine de la culture italienne. L'écrivain Giambattista Basile, napolitain, avait réuni une très grande tradition de fables de Phèdre, d'Ésope et de Phèdre, et il les avait portés au XVIIe siècle dans la culture napolitaine, donc le conte des contes. Et c'est à travers ça, à travers ce recueil, qu'après la fable et les contes sont arrivés en Europe. Perrault même a repris cette idée. En Italie, on fait une petite différence entre le conte et la fable. Donc la fable, il y a les personnages, les animaux qui interviennent, il y a une morale à la fin. Le conte, où il y a quelque chose de fantastique, justement, une métamorphose, une transformation. Et quand je dis métamorphose, je pense aussi à la culture qui a pu nourrir certaines lectures de Collodi, par exemple Ovid ou bien Apulée, donc cette tradition de magie qui donne la possibilité à Cendrillon ou à son carrosse de se transformer. Donc ça, évidemment, oui, c'était à la base de son personnage. Par contre, l'idée du nez qui bouge, les critiques pensent que c'est vraiment une idée qui avait eu une invention pure.
Merveilleuse invention.
Il faut dire qu'il y a une petite phrase de la fée bleue, Ça aussi, c'est un héritage de la tradition des fables et des contes, même français. Et donc, la fée dit à Pinocchio qu'il y a deux sortes de mensonges. Donc, celles qui ont les petites jambes, parce qu'en Italie, il y a un proverbe qui dit que les mensonges avec les petites jambes ne vont pas trop loin, et celles qui ont le nez qui s'allonge, qui grandit. Donc, il y a cette réflexion, cette invention qui est tout à son mérite.
Ah bah oui, c'est ça. J'ai dit, alors, vous diriez que c'est un conte ou une fable, alors?
Bah, les deux, c'est ça justement voilà. Qui est la porte de Collodi dans la langue et dans la littérature italienne. Il arrive à fondre ces deux traditions, une tradition d'ailleurs qui avait été aussi de Leonardo da Vinci. Il avait écrit beaucoup de fables, Leonardo da Vinci. Avec
mais très brèves.
Très brèves, oui, on dirait presque des haïkus.
Voilà.
mais très jolies, très lisibles, un bon apport aussi pour la langue italienne d'ailleurs, de Florence, de Toscane
Florence.
Encore une fois.
Vous êtes toscane?
Non, napolitaine.
Ah, donc c'est tout à fait désintéressé ce que vous dites.
Tout à fait désintéressé.
Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur l'origine des contes et des fables, c'est que ça passe par Naples, et c'est-à-dire que tout ça, ça vient de la Grèce.
Et il y a justement, encore une fois aussi, des chemins qui se croisent entre le théâtre et la prose, la littérature. C'est un livre, Pinocchio, qui est plein de théâtre. C'est un hommage au masque de la commedia dell'arte, et l'écriture même, c'est un hommage à l'écriture théâtrale.
Alors, il y a une chose importante pour venir, puisque nous sommes en France, mais on restera pas en France, c'est la comparaison éducative et littéraire avec un roman, là, pas un conte, un roman très connu en France, qui est Les Malheurs de Sophie. Et je trouvais intéressant de comparer les deux, justement, dans l'idée de l'éducation que peuvent se faire au XIXe siècle des Français et des Italiens.
Mais, évidemment, c'est un siècle aussi où il y a beaucoup de littérature enfantine. Mais effectivement, la similitude, c'est qu'il s'agit de deux enfants, évidemment, un garçon d'un côté et une fille de l'autre, qui doivent apprendre à bien se porter. Mais après, ce qui est intéressant peut-être, c'est d'en lire les différences. D'un côté, nous sommes avec Sophie, dans un côté extrêmement bourgeois, même aristocrate, et de l'autre côté, on disait avec Pinocchio, c'est la pauvreté, c'est les paysans. On le retrouve dans tout le contexte, dans l'opposition d'ailleurs ville-campagne. À Sophie, nous avons des châteaux. Dans Pinocchio, il y a des cabanes. Et la langue aussi est très différente. C'est une langue bien constituée pour Sophie. C'est un dialecte, c'est un mélange de différentes langues pour Pinocchio.
C'est intéressant ça, pardon. Quel est le parler en italien de Pinocchio?
Il y a des registres très variés. On dit du toscan, mais c'est dans le sens que Collodi utilise pour le narrateur une langue qui est une langue italienne qui s'affirme à ce moment-là. Et puis tous les dialogues aussi sont une grande nouveauté pour la littérature italienne. Et c'est les synonymes de la langue toscane, du dialecte toscan. D'ailleurs, il y a des mots qui encore aujourd'hui ne s'utilisent plus. Et là, il cherche vraiment à donner un maximum de variété, de synonymes et de couleurs à cette langue. Et d'ailleurs, je me suis amusée, par exemple, pour fripon,
oui.
Un mot, mais il y a, je ne sais pas, une vingtaine de synonymes qu'il utilise pour donner à chaque fois l'italien, donc l'équivalent, et j'ai vu que la traductrice a eu du mal à chaque fois à chercher, elle avoue aussi. Et c'est ça, c'était une des difficultés. Par exemple, je ne sais pas, si on dit le pays des joujoux, le pays des balocchi. Balocchi, c'est un mot qui était purement toscan, c'était pas un mot italien. On dit giocattoli en italien, donc les jouets. Et il y en a plein de mots. Donc effectivement, il utilise une langue qui pouvait être comprise facilement aussi dans les milieux les plus modestes.
Enfin, l'italien était quand même constitué au moment où le livre a paru. La langue italienne unitaire, si je puis dire.
Oui, alors, c'était des années aussi particulières. Le grand dictionnaire de la langue italienne était écrit dans ces mêmes années. La langue italienne, c'est pas facile, l'histoire de la langue italienne. Oui, évidemment, il y a une langue écrite qui est plus affirmée. On parlait tout à l'heure de l'écrivain Manzoni avec son roman Les Fiancés. Tout en étant de Milan, lui, Manzoni était allé à Florence, il disait, pour nettoyer sa langue dans l'Arno, le fleuve de Florence. Et pour chercher une langue qui pouvait aussi donner des mouvements au corps, donc donner des mots à des gestes. Et évidemment, ça pour Collodi, c'est plus évident parce que il alterne les registres. Et ce qui a été évidemment très apprécié, on peut dire que dans un certain sens, il suit la leçon de Dante Alighieri dans un livre, un essai sur la langue italienne, le De vulgari eloquentia, où il dit que la vraie force de l'italien aurait été, l'italien je le dis, ça n'existait pas, de la langue vulgaire, aurait été celle de unir des apports de différentes régions. Et c'est que les linguistes, les très grands linguistes italiens, De Mauro, qui est disparu il y a quelques années, Tullio De Mauro disait, la force de la langue italienne, c'est de ne pas négliger les dialectes.
Un autre personnage qui est intéressant d'en rapprocher de Pinocchio, c'est Peter Pan. Il y a quelque chose de beaucoup plus ressemblant, parce qu'on dit depuis tout à l'heure Pinocchio un petit garçon, mais c'est pas un petit garçon, c'est un pantin, il est en bois. Et de la même façon, Peter Pan est un petit garçon, mais n'est pas un petit garçon. Il vole, par exemple.
Là aussi, Peter Pan naît ou ne naît pas à Londres, dans un parc qui est très riche, à Kensington. Et c'est vrai qu'on ne peut pas oublier la famille et les conditions dans lesquelles il a été créé. Donc, tout le long des aventures de Peter Pan, on retrouve aussi un milieu qui est très riche, qui n'est pas présent à Pinocchio. C'est vrai que le problème de Peter Pan, c'est qu'il ne veut pas grandir. Voilà. Mais Pinocchio, ce n'est pas forcément qu'il ne veut pas grandir. Pinocchio, il veut s'amuser. Il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas apprendre à lire, à écrire. Mais ce n'est pas forcément grandir qui lui pose un problème. C'est vraiment le fait de devoir suivre un chemin qui pose des règles. Mais effectivement, oui, Peter Pan. Mais pourquoi pas penser qu'à l'inverse, Peter Pan est... soit né en pensant à Pinocchio. D'ailleurs, une des premières traductions, la première traduction au monde de Pinocchio était en anglais.
Ah oui.
Donc, Barry était quelqu'un de très, très cultivé, donc peut-être, a lu le Pinocchio, on ne sait pas.
Alors, il y a peut-être une ambiguïté intéressante dans les aventures de Pinocchio, c'est le rêve final, où Pinocchio voit une dernière fois la fée, il se réveille, enfin, on connaît l'histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que toute l'histoire, à partir de là, est un fantasme et ne s'est pas passé?
Ah oui, pourquoi pas, justement. Je parlais de Mangel tout à l'heure, mais on peut penser à Borges qui disait que tout est un rêve, tout conte est un rêve, et du lecteur ou de l'écrivain. D'ailleurs, il y a aussi, c'est très intéressant, toute une relation avec la paternité d'un côté, Geppetto, et la maternité de l'autre, cette fée qui au début est une petite sœur, puis devient la mère. Ça aussi, c'est peut-être au fur et à mesure qu'il écrivait, Collodi changeait d'idée ou élaborait mieux son personnage. Et sur la fée a coulé aussi beaucoup d'encre. Même il y a eu des interprétations religieuses. Est-ce qu'on peut penser à la Madone avec les peintures de la Renaissance italienne?
Je vous interromps, pardon, mais il y a une chose intéressante dans le livre, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas une seule recommandation religieuse dans les aventures de Pinocchio.
Non. Mais ce que, justement...
Et c'est intéressant dans un pays comme l'Italie.
Ah oui, il était très laïque. Voilà. Il était anticlérical, voilà. Collodi, il était absolument contre l'Église. Et d'ailleurs, la loi de 1877, c'est d'une école laïque. Rome était devenue capitale, mais il y avait encore une relation avec l'Église encore en discussion. Et si, mais à la fin, justement, cette fée qui disparaît peu à peu... laisse d'ailleurs le dernier chapitre d'une grande complexité où on sent que Collodi a besoin de renouer toute l'histoire. Donc il y a peu à peu presque tous les personnages qui reviennent, et ce rêve imaginaire de tradition aussi de littérature. Il y a le rêve et puis il y a cette transformation donc du pantin.
Valentina Frulio, que vous a appris le personnage de Pinocchio?
La désobéissance, mais je dirais une forme de désobéissance intelligente, une intelligence de la désobéissance. En littérature, je disais, c'est la naissance du héros, c'est le départ de chaque aventure. Mais en littérature aussi, la désobéissance, c'est un enseignement de tout grand livre. On pense au Don Quichotte, on pense à Pinochet qui interdisait la lecture de ce livre pour la désobéissance civile. Et donc, oui, pourquoi pas, sortir un peu de la norme pour se retrouver, pour se former.
comme si j'étais assis là-haut au paradis.
C'était Personnage en personne, le 173e. Réalisation Clotilde Pivin, chargée d'émission Meryl Moneghetti, prise de son Jordan Fuentes.